France Culture vous invite à écouter Science Vécue. Ce soir, la métallurgie, science de demain. Une émission d'Étienne Boer avec la participation de messieurs Georges Sertour, chef du laboratoire central de Sud Aviation, Michel Eudier, ingénieur conseil à Metafram, chargé de cours à l'école centrale, Pierre Lelon, ingénieur chef de service au département de métallurgie à Tréfimétaux-Pechiney, Yves Quéré, chef de section de métallurgie du plutonium au commissariat d'énergie atomique, et Yves Ada, chef de section de recherche de métallurgie physique au commissariat d'énergie atomique.
Messieurs, vous êtes à la fois du privé, du nationalisé et du national, et pourtant vous avez un point commun, et ce point commun, c'est le métal. C'est très curieux, brusquement, l'apparition de ces recherches sur le métal et de ces laboratoires de métallurgie. Le métal, c'est ce qui nous entoure, et voilà que le métal devient quelque chose de plus important. C'est non seulement notre plume de stylo, c'est non seulement la rambarde sur laquelle on s'appuie, mais voilà que c'est devenu ce qui entoure et ce qui pose tellement de problèmes pour les satellites. Et après tout, l'énergie atomique brûle comme charbon du métal, puisque le plutonium, l'uranium, sous une forme quelconque, sont des métaux. Donc voilà que le métal prend une position de plus en plus importante, et pourtant, le métal est quelque chose de très ancien, que les hommes ont dû travailler depuis très longtemps. Vous travaillez à votre tour en prenant une tradition très ancienne, mais je suppose des méthodes complètement nouvelles. Michel Eudier, comment est-ce qu'on regarde le métal maintenant? Et qu'est-ce que c'est que la métallurgie?
C'est très difficile à définir, bien sûr, mais on regarde le métal actuellement avec des instruments extrêmement puissants, puisque il n'y a qu'avec des métaux qu'on a pu atteindre la structure intime de la matière, comme par exemple voir individuellement des atomes. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres sciences où l'on ait pu réaliser cela. Autrement dit, le métal est, à cause de sa structure cristalline, où les atomes sont disposés régulièrement, un corps qui peut s'étudier par quantité de moyens, alors que ce n'est pas le cas pour d'autres matériaux comme les matières plastiques qui sont beaucoup plus difficiles à étudier.
Les matières plastiques, je vous le dis tout de suite, c'est le rival et l'ennemi de la métallurgie, c'est trop évident.
Non, ce n'est pas un rival. La matière plastique a pris une place importante dans la vie de tous les jours, mais le métal n'a pas perdu, je pense, quoi que ce soit. C'est une addition.
C'est, disiez-vous, Quéré, c'est un signe important, le métal, dans la civilisation.
Oui, on parle bien sûr de l'âge de fer, et ceci nous rappelle que le métal existe bien sûr depuis toujours, mais que la métallurgie existe depuis des millénaires.
Mais c'est de la métallurgie dans un autre sens que ce que disait Eudier.
C'est vrai. D'ailleurs, qu'est-ce que la métallurgie et qu'est-ce que le métal? Métal, le mot même nous l'indique, metallum, c'est la mine et non pas le métal en latin. Autrement dit, dès l'origine, la notion de métallurgie, le métal lui-même a été lié à l'activité des mineurs. Et pendant de longs siècles, je crois que cette double appartenance s'est prolongée et elle se prolonge jusque maintenant où de nombreuses écoles, une en particulier qui est célèbre à Nancy, s'appelle l'école des mines et de la métallurgie.
Mais d'ailleurs l'école des mines à Paris, en fait, il y a un labo de métallurgie aussi.
Bien entendu. Et puis petit à petit, je crois qu'on peut dire aussi que la métallurgie s'est un peu dégagée de ses origines minières et elle est tombée tout naturellement dans l'orbite de la chimie, dans la mesure même où il fallait transformer les minerais. On ne trouve jamais un métal à l'état pur dans le sol, ou très rarement. Et c'est jusqu'à, il y a en somme très peu de temps, que la métallurgie est restée en somme une branche de la chimie. Oui. Maintenant, le métallurgiste se rend de plus en plus compte qu'en réalité, le métal fait partie aussi bien de la physique que de la cristallographie, comme le disait à l'instant M. Eudier, où les atomes sont rangés de façon régulière dans le métal. Et c'est à la fois un physicien, un chimiste bien sûr, un cristallographe qu'est le métallurgiste.
N'est-ce pas, toutes les sciences actuellement sont des sciences de carrefour. Il n'y a plus de sciences pures, de chimistes purs, ou presque plus. Presque toutes les sciences sont des sciences. Même des biologistes purs, ça n'existe pas beaucoup. Mais tout à l'heure, vous nous disiez, Adda, que ça n'était pas du tout la régularité, comme le disait tout à l'heure Michel Audier, qui caractérise le métal. C'est le défaut.
Oui, effectivement. En général, les propriétés des métaux dépendent surtout des défauts dans l'assemblage d'atomes que constitue le cristal. Alors, certains défauts sont simplement constitués par un manque d'atomes. Un atome, donc, n'apparaît pas à un site atomique.
C'est-à-dire que, pour essayer de rendre les choses claires, c'est comme s'il y avait un quadrillage et il y a un carré qui est vide.
Exactement. Oui. Alors, on appelle ça une lacune. Dans d'autres cas, au contraire, alors le défaut est plus difficile à visualiser, mais se comporte comme une hétérogénéité élastique du cristal, ouais. Et on appelle ça une dislocation. Oui, c'est et on peut dire que l'essentiel des propriétés des métaux peut s'analyser uniquement avec ces défauts. Et c'est ce qui différencie souvent le physicien qui étudie donc le cristal parfait du métallurgiste qui s'intéresse beaucoup plus aux défauts du cristal.
C'est tout de même curieux cette histoire de défaut qui donne les propriétés des métaux. Vous voulez dire que s'il n'y avait pas de défaut, le métal serait très différent.
Exactement. Par exemple, s'il n'y avait pas de dislocation, le métal aurait une limite élastique donc beaucoup plus élevée, mais se déformerait beaucoup moins aisément, serait moins ductile, si vous voulez.
Il serait moins mou.
Moins mou, exactement.
Vous m'excusez d'employer des mots aussi simples.
Plus fragile.
Le long.
Plus fragile.
Il serait plus cassant.
Il serait plus cassant. Il n'aurait pas d'aptitude à la déformation. Or, l'aptitude à la déformation caractérise essentiellement le métal.
Il est d'ailleurs curieux, au passage, de noter que qu'on a appelé défaut ce qui, en réalité, donne au métal ses propriétés les plus intéressantes pour l'homme.
C'est-à-dire que, Quéré, je pense que vous voulez dire par là qu'on a appelé ça un défaut parce que c'est un défaut intellectuel, mais ce n'est pas un défaut physique.
Voilà.
C'est intellectuellement désagréable, que ce n'est pas régulier. Mais est-ce qu'on sait maintenant, Michel Audier, comment se font les phénomènes, par exemple, quand on plie un métal, quand il s'écrouille, enfin tous ces trucs, tous ces procédés de l'utilisation du métal qui sont anciens, ou quand on les trempe?
Il y a énormément de choses, bien sûr, qu'on ne connaît pas dans les métaux. C'est bien dommage, parce qu'on pourrait certainement faire des progrès très grands. Mais on connaît quand même énormément de choses. Vous parlez par exemple de déformation plastique, c'est-à-dire le pliage du métal. Alors là, on connaît beaucoup de choses. On sait comment ça se produit. On connaît d'abord la propriété globale. Et puis ensuite, à quoi cela correspond
dans la structure.
Dans la structure. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de défaut. Vraiment, c'est un mot qui est malvenu, étant donné que ces défauts, gardons le nom, sont systématiques. Ce ne sont pas dus uniquement au hasard, ils sont systématiques. Par conséquent, ils font partie de la structure.
C'est-à-dire qu'il y a une géométrie, il y a une géométrie de ces défauts.
Une fréquence de défauts.
Un rythme de ces
caractéristiques défauts. En fonction de la température, par exemple, les défauts augmentent quand on augmente la température.
Mais alors, quand vous étudiez un métal, vous le choisissez comment? Parce que les aviateurs vous le demandent ou parce que c'est un métal intéressant? Bien entendu, si je pose la question à Georges Sertou qui est lié à Sud Aviation, il me dira c'est parce que les utilisateurs me le demandent.
Alors, je crois que les utilisateurs font faire et ont fait faire beaucoup de progrès à la métallurgie dans un certain nombre de domaines. Et dans le cas de l'aéronautique, il est certain que nous réclamons toujours des alliages.
Nous, c'est les métallurgistes ou les aviateurs?
Ce sont les aviateurs.
Bon.
Réclament toujours des alliages avec une résistance mécanique plus élevée, avec une fiabilité. Enfin, fiabilité, ça veut dire.
Ça veut dire que l'aile ne se détache pas.
Que l'aile ne se détache pas, qu'on ne couvre aucun risque, que tous les phénomènes de rupture possibles aient été analysés, bien compris, pour que. On ne risque pas de les rencontrer de façon aléatoire. Et c'est sous cette poussée que, je crois, les métallurgistes font parfois des progrès et en ont fait.
Mais vous voyez, Georges Sertou, moi j'ai été très frappé en lisant un livre, en lisant Le Défi américain, qui est aussi un livre à très gros tirage, qu'on fait une allusion au métal. On nous dit le Concorde est le dernier des avions de sa lignée, le plus perfectionné, alors que son rival américain sera le premier d'une lignée nouvelle parce qu'il est fait en titane. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que ça correspond à des recherches que vous faites? Est-ce que les aviateurs vous ont dit les métaux que nous avons vont fondre ou l'avion va se déformer à la chaleur?
La chose est très simple. Concorde sera un avion dont la température de peau sera au maximum de l'ordre de 100 à 120 degrés.
La température de peau, vous mettez peau dans le sens des
pierres. Oui. C'est ça. Cette température, par conséquent, reste tout à fait compatible avec l'emploi des alliages d'aluminium. Alors que le SST américain volera à Mach 3, c'est-à-dire à 3 fois la vitesse du son, Concorde ne volant qu'à 2 fois la vitesse du son, et sa température de peau atteindra 300, voire 350 degrés. Il sera donc beaucoup plus chaud. Et dans ces conditions, les alliages d'aluminium ont une résistance mécanique insuffisante, et c'est pourquoi le SST américain utilise des alliages de titane, ou utilisera en partie des alliages de titane. Mais il est bien évident que lorsqu'on peut utiliser des alliages d'aluminium pour faire un avion, il vaut mieux utiliser des alliages d'aluminium, puisque l'aluminium a une densité de 2,7, alors que le titane a une densité de 4,5. On ne gagne pas de poids en remplaçant de l'aluminium par du titane, d'une façon très générale et très globale. Il y a évidemment des cas particuliers qu'il faudrait voir de près.
Mais enfin, les besoins des aviateurs vous ont fait faire des progrès, dites-vous. Comment ?
On fait faire des progrès aux métallurgistes.
Oui, comment ?
Eh bien, monsieur Lelong,
finalement, le groupe industriel que je représente, n'est-ce pas, c'est surtout pendant très longtemps préoccupé d'alliage d'aluminium. Et il n'y a pas l'ombre d'un doute que ceci, enfin les besoins exposés par M. Sertour, ont conduit ce groupe à se préoccuper fortement des alliages de titane qui sont en plein développement à l'heure actuelle. C'est vraiment l'utilisateur qui a incité le métallurgiste à chercher à rendre reproductible et à rendre rentable la fabrication d'alliages de titane de performance de plus en plus élevée. Autrement dit, il y a une mutation de l'activité industrielle qui est créée finalement par les besoins de l'utilisateur du métal.
Mais Pierre Lelong, est-ce que cela veut dire que, contrairement à ce qui se passe par exemple en physique nucléaire, où on se pose un problème théorique et puis on essaie de le résoudre, est-ce que vous pensez que la recherche de laboratoire essaye de suivre des besoins?
Bien, oui, vous posez.
Est-ce que vous pensez aussi que c'est vrai? Je m'excuse, vous êtes dans une boîte industrielle, mais est-ce que ça serait aussi vrai pour un laboratoire universitaire, par exemple, ou pour un laboratoire
Je pense que vous posez un problème qui est extrêmement grave, qui est le problème de la prospective en recherche. C'est-à-dire que les laboratoires de recherche, appliquée et même probablement recherche fondamentale, doivent être capables de faire une espèce de prospective, c'est-à-dire de deviner ce dont on aura besoin dans quelques années, ces quelques années pouvant être 5 ans, 10 ans, voire 15 ans.
Je ne suis pas entièrement d'accord avec cette position. Je crois que la recherche, dite fondamentale, pour employer un mot à la mode, peut fort bien se ressourcer d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle peut fort bien trouver en elle-même ses propres sujets, à la suite de celles qui ont déjà été faites, des recherches qui ont déjà été faites, sans pour autant que l'homme de laboratoire se demande si dans 15 ans le sujet sur lequel il travaille sera utilisé.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense d'ailleurs qu'il y a une espèce de parallélisme d'évolution, en ce sens que la recherche trouve des voies nouvelles qui n'ont pas été suscitées par le demandeur, mais qui peuvent ensuite susciter le demandeur à tenter des applications encore plus avancées que celles qu'il avait prévues initialement, car il ne connaissait pas les débouchés qui pourraient être obtenus, n'est-ce pas, grâce à des connaissances nouvelles.
Alors, vous, Yves Adamek, je ne comprends pas. Nous sommes partis historiquement de gens qui probablement, par hasard, ont trouvé des alliages. Ils ont commencé par faire du bronze, ils ont commencé par faire des alliages, sauf l'or et l'argent, ça a été particulier. Ils ont fait ça évidemment sans aucune théorie, et même probablement en se trompant sur leur causalité, puisqu'ils voyaient probablement le sacrifice des trois colombes comme ayant un résultat métallurgique, ils se trompaient dans les causalités scientifiques. Et puis après ça, ça s'est perfectionné pendant très longtemps, la métallurgie a été un savoir-faire. Et puis tout d'un coup est arrivé le laboratoire. Alors le laboratoire, nous a dit M. Sertour, a essayé de répondre aux besoins des utilisateurs. Et puis Quéré nous dit maintenant qu'il a sa propre finalité, ses propres ressources, et une espèce de progression. Il est évident que la science est avant tout une espèce d'essai de connaissance du monde extérieur, mais c'est aussi avant tout une espèce de prise de possession du monde extérieur, et que opposer l'un à l'autre m'a toujours paru quelque chose d'absurde. Mais maintenant, où en est-on ? En métallurgie, où en êtes-vous ?
Je crois déjà, ce qu'il faut dire, c'est que, en général, dans la pratique, on rencontre des cas très compliqués. C'est-à-dire que quand on fabrique un métal, quand on déforme un métal, ou un alliage industriel, les conditions sont tellement compliquées que le théoricien ne pourrait analyser exactement les phénomènes.
Autrement dit, vous dites que le théoricien court après le praticien.
Ce n'est pas exactement ça. C'est-à-dire que pour comprendre les phénomènes, il doit simplifier les choses. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre un alliage complexe, eh bien, il va prendre par exemple, un métal pur. Ou s'il prend un alliage, c'est un alliage, disons, bien connu, et il va opérer sur cet alliage des transformations, des modifications parfaitement contrôlées qui, bien souvent, sont assez éloignées des sollicitations auxquelles est soumis un métal dans des conditions pratiques. Et c'est grâce à cette simplification des problèmes qu'il peut trouver une solution. Alors, souvent, le chercheur laboratoire trouve une solution au problème qu'il s'est fixé, et pour arriver à, prévoir l'amélioration de matériaux, il faut arriver à assembler un tas d'informations de ce type et qui souvent sont déficientes. Ce qui fait qu'actuellement, on peut expliquer un certain nombre de phénomènes, on explique beaucoup de choses par la théorie, mais on ne peut prévoir, des applications que dans des cas très rares, et je ne saurais vous en citer de tête.
Ça veut dire, c'est bien ce que je dis, ça veut dire que le théoricien explique ce que le praticien a fait. Quéré, vous avez la...
Bon. Non, il ne faut pas exagérer, je ne suis pas du tout d'accord là-dessus. Parce que, le théoricien de pointe ne fait que cela, mais il y a toute une échelle entre le théoricien et le praticien. Il y a un tas d'intermédiaires qu'on peut quand même encore qualifier de scientifiques, et ces scientifiques-là peuvent éventuellement avoir des applications pratiques. À partir de quel moment peut-on parler de science ? C'est bien difficile. Tout à l'heure, nous avons discuté de nouveaux aciers qui sont sortis, qui sont les Maraging Steel. Eh bien, ces aciers, je trouve, ont été élaborés, bien sûr, par des praticiens, mais ce sont déjà des praticiens qui connaissent très bien la théorie. Alors, on peut quand même les qualifier de scientifiques.
Permettez, je crois que c'est quand même une application indirecte. Dans ces cas-là, c'est rarement une application directe des connaissances. C'est-à-dire que la métallurgie fondamentale fournit des concepts, fournit des modes de pensée qui aident beaucoup les praticiens donc à atteindre les buts qu'ils se sont fixés. Et il est certain que sans les études fondamentales, probablement que les industries dépenseraient beaucoup plus d'argent pour faire des recherches empiriques dans beaucoup de directions. Les études fondamentales permettent de canaliser, de réduire les voies possibles et d'économiser beaucoup d'efforts, je pense.
Oui, c'est ça.
Mais c'est quand même
un effet indirect. Michel Bellier, reprenons l'exemple du nucléaire. Un beau jour, des physiciens ont travaillé sur la structure nucléaire. Bon, c'était les découvertes de juste avant la guerre. Et puis ils ont dit, ce truc-là va nous donner de l'énergie. Et fera la bombe et tout ça.
Et ceci a été trouvé théoriquement.
Ceci a été trouvé théoriquement en partant de quelque chose sans du tout qu'ils essayent de tout faire de l'énergie. Eh bien, est-ce qu'en métallurgie, il y a quelque chose de semblable ? Est-ce qu'il y a des gens qui réfléchissent au métal en tant que tel, sans essayer de vouloir faire un métal ? Et puis ça sert quand même.
Ah oui. Alors, oui.
Bon, à Quéré.
Moi, je le crois fermement.
Et moi aussi, simplement, enfin, je voulais poser
ce
la question.
Que je disais tout à l'heure sur la nécessité de garder aux métallurgistes fondamentalistes, si on peut dire, la nécessité de lui garder sa liberté n'empêche pas que un jour ou l'autre, une année ou 10 années plus tard, effectivement, il y aura des points de contact, des points de tangence entre sa recherche, qui est libre, qui n'est pas sur des rails, et puis des applications. Je prends l'exemple du Duralum. C'est un exemple qui est bien simple. Oui. C'est évidemment une trouvaille qui date d'avant-guerre et qui était une trouvaille tout à fait faite sur le tas, empirique. Tout à fait indépendamment des gens qui travaillaient sur le duralum, d'autres physiciens, beaucoup plus tard d'ailleurs, une vingtaine d'années plus tard, se sont mis à étudier les lacunes, les défauts dont parlait Ivada tout à l'heure, et bien entendu, ils ne pensaient à aucun moment au duralum. ils ont trempé des lacunes, ils ont étudié les propriétés de ces lacunes, et puis il est apparu tout naturellement, sans qu'on l'ait voulu du tout à l'avance, que par les travaux qu'ils avaient faits sur les lacunes, on pouvait rendre compte assez bien des propriétés de durcissement du dural humain. Mais ceci étant, ils n'avaient pas étudié les lacunes en se disant, dans 15 ans, on comprendra les dural humains ou à l'aide de nos travaux.
Mieux que cela, cela a conduit à améliorer le traitement thermique du dural humain. Parce que, et encore actuellement, il y a des études qui vont être faites ou qui sont faites et qui vont permettre de faire quelque chose de mieux encore. Justement, là c'est un excellent exemple, je trouve, d'application de la théorie à la pratique. Parce que au début, on faisait le vieillissement, ce qu'on appelle le vieillissement du dural humain, après la trempe, pour obtenir de meilleures propriétés mécaniques. Et ce vieillissement était fait suivant des recettes, on peut dire, qui avaient été trouvées à l'époque. Et puis petit à petit, on a su à quelle température il fallait le traiter, pendant combien de temps il fallait le vieillir, à quelle température. Et actuellement, par la théorie, alors cette fois-ci, on a trouvé qu'il valait mieux faire une pré-précipitation pour préparer le métal à subir le vieillissement et avoir de cette façon des particules dispersées dans un certain ordre, de certaines dimensions, etc., etc. De sorte qu'on a amélioré, cette fois-ci, par la théorie, directement un alliage au point de vue résistance mécanique.
Oui, je crois que l'exemple est très bon.
Mais Yves Carré, et maintenant, vers où va-t-on alors? Maintenant, on a vu le processus pour aller jusqu'au dural humain. Et maintenant?
Eh bien maintenant, je crois que ceux qui ont travaillé il y a 10 ans sur les lacunes, pour continuer sur la voie de cet exemple, ont trouvé dans leurs propres études, et non pas sur les problèmes de dural humain, ont trouvé des suites à ces travaux. Il ne faut peut-être pas entrer dans le détail, mais chaque laboratoire qui travaillait sur ces problèmes a trouvé des suites tout à fait logiques, et qui pour le moment n'ont aucune application. Mais probablement, dans 5, 10 ans, 15 ans peut-être, peu nous importe, trouvera-t-on d'autres points de tangence entre la pratique et la théorie?
Donc, surtout... Pour continuer sur cet exemple du dural humain, je voudrais dire que c'est un alliage qui est très utilisé dans l'aéronautique, et qu'actuellement, on a tendance à utiliser à l'état revenu, c'est-à-dire un état qui consiste à faire ce vieillissement, ce durcissement dont nous parlait M. Dier tout à l'heure, non plus à la température ambiante, mais à une température de 190-200 degrés. Et si on a été amené à faire ce nouveau traitement thermique sur ces alliages du type dural humain, c'est essentiellement pour modifier leur comportement à la corrosion. Il y a un phénomène très particulier qu'on appelle la corrosion sous tension. C'est un phénomène de rupture spontanée des pièces dans un milieu humide, l'air ambiant par exemple. Mais je crois bien que ce traitement de revenu qui désensibilise l'alliage à la corrosion intergranulaire et à la corrosion sous tension, c'est encore un fruit de la recherche empirique ou à caractère empirique.
Je ne sais pas, est-ce que ça n'est pas aussi un fruit de recherches qui ont été faites dans des laboratoires d'études fondamentales qui ont étudié de façon relativement désintéressée l'évolution structurale du métal entre l'état d'équilibre et l'état hors d'équilibre, la nature des défauts, la nature des phases imparfaites qui prennent naissance à l'occasion de ces traitements thermiques de revenu, et est-ce que ce n'est pas aussi un prolongement d'études fondamentales qui ont été faites en électrochimie sur les mécanismes de la corrosion? Je crois qu'il y a un peu des deux.
Je crois, monsieur Lelong,
vous souriez.
qu'effectivement, on cherche une explication par les différentes méthodes,
oui,
différentes techniques que vous venez d'énumérer, à cette désensibilisation.
Oui.
Mais si je me souviens bien, je crois que le traitement de revenu, la durée et la température ont été définis, ma foi, par des voies très très empiriques. On a,
oui,
fait différents revenus, on a fait des essais de corrosion sur les différents états, et on a dit le meilleur, c'est celui-là, parce qu'on a constaté que c'était le meilleur.
Michel Audier.
Et c'est ensuite que
On a essayé.
Oui, alors moi, je pense au traitement de survenu, n'est-ce pas? C'est-à-dire le dernier-né. Je crois que le dernier-né, vraiment, il est basé à la fois sur les recherches empiriques initiales, mais à la fois aussi sur les connaissances, n'est-ce pas, que l'on a obtenues grâce aux études faites par les chercheurs de recherche fondamentale, je crois.
C'est juste.
Je crois qu'il y a un parallélisme.
Oui, je voulais simplement dire que chaque découverte est toujours le fruit, on vient de le dire plusieurs fois, toujours le fruit d'une comparaison qui est faite entre la théorie et la pratique. C'est bien normal. Heureusement que le praticien a beaucoup de choses à dire dans les découvertes. C'est heureux, il y a quand même un rôle humain, il ne suffit pas de faire des mathématiques pour faire du métal.
Je crois que c'est M. Hada qui tout à l'heure nous a donné une très bonne définition de ce processus. Je crois que, effectivement, la recherche, tout au moins la recherche industrielle ou la recherche appliquée, démarre bien souvent sous la poussée des utilisateurs. Ensuite, elle dérive en recherche plus fondamentale. La recherche fondamentale trouve ensuite sa propre source, n'est-ce pas ? Et ouvre de nouveaux débouchés, c'est un jeu d'aller-retour, n'est-ce pas ?
Oui, oui.
Continuellement.
Ça, dans tous les cas, pas propre à la métallurgie.
Ce n'est pas propre du tout à la métallurgie.
C'est un mécanisme. Mais, Yves Guéré, maintenant, on parle de formes de métaux nouveaux, de métaux nouveaux qui sont en partie issus du laboratoire. On parle de métaux liquides. Et vers où va la métallurgie ?
Ah, vous soulevez là un problème qui est important. Dans la mesure où, je crois, il contredit un peu ce que nous avons dit jusqu'à présent. Nous avons signalé, je crois que c'est Ivada qui l'a dit, que les théoriciens étaient un petit peu en retard dans bien des domaines, sur les techniciens, c'est vrai, en particulier bien des études sur les alliages et sur la sidérurgie. Or, il apparaît dès maintenant des domaines de la métallurgie qui sont des domaines nouveaux, on peut dire que ce sont des domaines en pointe, qui sont très récents et où finalement théorie et travail d'industriel sont nés en même temps, simultanément. Et ceci donne à ce moment-là un caractère en somme de cheminement en commun du théoricien et de l'industriel qui est fort important, je crois, et beaucoup plus marqué que pour les domaines anciens de la métallurgie. Vous parliez des métaux liquides, c'est vrai, c'est un de ces domaines. Certainement, il y a 20 ans, on connaissait fort mal les métaux liquides. On savait que le mercure était un métal liquide, on savait qu'il conduisait à peu près le courant électrique. On savait aussi que sa structure ordonnée, dont nous a parlé tout à l'heure M. Audier, était fortement perturbée dans l'état liquide. On n'en savait guère plus. Or, maintenant, à la fois des théoriciens s'intéressent aux métaux liquides, un congrès a eu lieu l'an dernier pour la première fois sur les métaux liquides, sur la théorie des métaux liquides, et en même temps, les industriels commencent à s'intéresser aux métaux liquides, par exemple au sodium, qui est le seul élément qui puisse emporter beaucoup de calories.
C'est le cas oui,
c'est réacteurs nucléaires, par exemple. Eh bien, je crois que voilà un bon exemple d'un domaine où actuellement théoriciens et praticiens se donnent la main et où praticiens sentent à côté d'eux les théoriciens beaucoup plus que, par exemple, en sidérurgie.
Mais alors, vous voyez, messieurs, pour en revenir à notre premier propos, nous sentons que le métal est quelque chose qui est de plus en plus important. On a même pu dire qu'une civilisation pouvait presque se peser au kilo de cuivre utilisé par personne. Cette métallurgie est quelque chose donc qui change très vite. Vous venez, Quéret, de nous expliquer qu'il y a des nouvelles formes de métaux, de nouvelles utilisations du métal. Nous n'allons pas insister aussi sur les problèmes des carbures, sur le problème de métallurgie des poudres, mais il y a toute une série de choses qui commencent à être connues, mais qui vont probablement avoir des rôles très importants. Et en face de cela, et je voudrais bien avoir votre avis là-dessus, je trouve que dans notre pays, la métallurgie universitairement n'a pas sa place. Qu'en pensez-vous, Thier ?
Alors ça, c'est tout à fait indiscutable. La métallurgie a toujours été une parente pauvre, étant donné que c'est une science qui est à cheval entre la chimie et la physique.
Comme pendant... s'il y avait maintenant encore une chimie et une physique séparées.
Oui, mais enfin, c'est que ça reste quand même dans les conceptions universitaires générales. Et ce qui est plus grave, c'est qu'on considérait que la métallurgie était uniquement l'élaboration du métal, c'est-à-dire effectivement de la chimie. Enfin, pas que de la chimie, bien sûr, mais tout de même...
Disons la cuisine de praticien.
Oui, à base de chimie. Ça n'empêchait pas qu'il y avait énormément de physique, d'ailleurs, dans cette chimie.
Et d'ailleurs, là, je voudrais rappeler qu'un des pères de la météorologie en France, qui est le professeur Chaudron, était titulaire d'une chaire de chimie appliquée. Il n'y avait pas de chaire de métallurgie.
Non. Et alors, à cause de cela, eh bien, la métallurgie n'est pas enseignée en tant que telle depuis son élaboration jusqu'à son utilisation. L'utilisation allant jusqu'à l'emboutissage de tôle, par exemple, pour fabriquer une carrosserie d'automobile. Alors, de ce côté-là, je crois qu'il y a un gros progrès à faire. Il y a une tendance générale qui se décide, tout de même, pour créer des chaires de métallurgie, pour créer des instituts de métallurgie, mais c'est encore très faible.
Il me paraît, comme laboratoire de recherche métallurgique, il y a les laboratoires industriels, qui sont maintenant assez nombreux. Il y a l'Institut de recherche sidérurgique, qui lui est inter-entreprise. Il y a aussi des écoles d'ingénieurs qui ont des laboratoires de recherche. À l'école des mines de Paris, il y a un laboratoire de recherche important. Il y en a aussi un à Nancy. Il y a évidemment le commissariat à l'énergie atomique Yves Quéré, Ivada, vous en êtes des preuves vivantes, s'intéressent énormément à la métallurgie, à l'département de métallurgie. Mais tout de même, quand on regarde le nombre de chaires de latin par rapport aux chaires de métallurgie, c'est un peu effondrant.
Oui, d'autant plus qu'on ne voit pas très bien par quel processus cela va s'améliorer très vite. Autrement dit, il y a des efforts qui sont faits, mais alors tout à fait en enseignement supérieur et non pas en enseignement de base.
Ben, les instituts universitaires de technologie vont peut-être faire quelque chose. Espérons-le.
Ce manque de connaissances se retrouve même vraiment à l'échelon de la grande presse. Je voudrais raconter ici une toute petite anecdote que tout le monde a pu lire en même temps que moi. J'ai appris en lisant un grand hebdomadaire parisien...
Que nous ne nommerons pas,
que nous ne nommerons pas par ces télégrammes, que les ingénieurs suédois, qui sont vraiment des gens très très à la pointe et qui sont vraiment ce qu'on fait de mieux à l'heure actuelle en Europe, venaient de mettre au point un matériau, disait-on, on ne disait pas un métal, un matériau nouveau qui était révolutionnaire et qui tenait très bien à haute température et qui avait des propriétés mécaniques extraordinaires, qui s'appelait le titanium. Et alors le titanium, bien entendu, c'est le titane, connu depuis la fin du XVIIIe siècle. Eh bien, voilà quelque chose qui passe très bien. On n'imagine même plus maintenant qu'un télégramme du même hebdomadaire puisse annoncer que les Lapons ou les Australiens ont inventé le nylon. Le titanium, c'est un matériau nouveau en France en 1967.
Alors, il y a plus extraordinaire que cela, puisque dans le même journal, je suppose... Il y avait écrit que la recherche aérospatiale était utile pour la fabrication des casseroles. Effectivement, on utilise de l'aluminium pour faire des casseroles, ça tout le monde le sait, mais je pense que les casseroles ont commencé avant l'industrie aérospatiale.
Je vous remercie, monsieur.
Oui, maintenant, il peut y avoir, comme on dit pour l'énergie atomique, des retombées dans les casseroles de l'aluminium des avions. C'est peu probable.
C'est peu probable.
Eh bien, le résultat de ces débats sur le métal, c'est que cette technique, qui est une technique qui a permis aux gens de triompher parce qu'ils avaient des épées en bronze, puis en face des épées en fer, puis qui a permis aux flottes en acier de triompher des flottes en bois, puis qui ont permis je ne sais pas si vous vous souvenez de cette extraordinaire querelle entre les obus et les cuirasses qu'il y a en particulier dans De la Terre à la Lune de Jules Verne, c'est avant tout un roman à base de métallurgie. Eh bien, c'est que la métallurgie est en somme une science extraordinairement jeune. Cette alliance de la technique et de la recherche avec la recherche courant un peu après la technique, c'est sûrement un tout début, parce que je crois que la recherche fondamentale va maintenant aller probablement beaucoup plus vite, et normalement elle doit dépasser l'application est de 5 ans, de 8 ans, de 10 ans, et ouvrir des champs nouveaux aux applications. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que si nous voulons que cette métallurgie ait son rôle nécessaire dans un pays comme le nôtre, je ne dirais pas en Europe, parce qu'en Angleterre, il y a énormément d'enseignements de métallurgie. En Allemagne, il y en a beaucoup aussi. En France, il y en a très peu. Si nous ne faisons pas beaucoup de métallurgistes, eh bien, je crois que nous risquons, sur un point auquel on ne pense pas, on pense toujours à l'électronique, on pense à la biologie, on ne pense pas à la métallurgie, c'est pas la mode, la métallurgie, messieurs, je m'en excuse, mais c'est pas la mode. Mais si on n'insiste pas énormément sur la formation des métallurgistes en France et des métallurgistes fondamentalistes, je crois que nous risquons de perdre une très grande partie.
C'était Science Vécue. Ce soir, la métallurgie, science de demain. Une émission d'Étienne Boer, réalisée avec la participation de messieurs Georges Sertour, chef du laboratoire central de Sud Aviation, Michel Eudier, ingénieur conseil à Metafram, chargé de cours à l'école centrale, Pierre Lelon, ingénieur chef de service au département de métallurgie à Tréfi Métaux Pechiney, Yves Quéré, chef de section de métallurgie du plutonium au commissariat d'énergie atomique, et Yves Ada, chef de section de recherche de métallurgie physique au commissariat à l'énergie atomique. Réalisation Gilbert Cazeneuve. Thank you.